Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les élections européennes, dernière ligne droite. Nous rejoindrons dans un instant Angélique Boin à Bruxelles pour évoquer les pouvoirs du Parlement. Également au sommaire de cette édition, la lutte contre les violences et agressions sexuelles dont les femmes sont victimes au Sénégal. Un retour sur la charge politique du palmarès du 72e Festival de Cannes avec Thomas Larabi. Et la face cachée du Globe, signée ce dimanche Nadine Epstein, consacrée aux tractations menées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a jusqu'à mercredi soir pour former une coalition gouvernementale. En 1976, le Conseil européen décide qu'à partir de 1979, le Parlement sera élu tous les 5 ans au suffrage universel direct à la proportionnelle. Date historique pour cette Chambre qui compte 751 membres renouvelés à la faveur de ce scrutin qui prendra fin ce soir. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante à Bruxelles, Angélique, le Parlement a gagné en puissance et sensiblement depuis le traité de Lisbonne.
Oui, coincé entre la Commission européenne qui propose les lois et les États souvent jaloux de leur pouvoir, ce n'est pas l'institution la plus puissante de la bulle bruxelloise, mais depuis Lisbonne, elle a un rôle renforcé en effet. Et on peut dire que sous la dernière mandature, les eurodéputés se sont saisis de ce nouveau pouvoir, de ce pouvoir de co-législateur avec le Conseil. C'est l'instance qui réunit les différents ministres des États membres. Depuis 2014, 1000 textes dans leurs 85 domaines de compétences ont ainsi été adoptés et sur plusieurs propositions, en particulier dans le domaine de l'environnement. Les eurodéputés ont parfois été plus loin que ce que voulait la Commission ou certains États. Alors bilan, il y a l'interdiction des plastiques à usage unique, la réforme des droits d'auteur, la réforme du travail détaché ou encore le non à la pêche électrique. On peut citer également le règlement sur la protection des données, qui est un texte qui aura marqué la mandature. Il est devenu une référence mondiale. Et puis le Parlement a gagné en crédibilité selon de nombreux experts, car il est moins dépendant des lobbies. La transparence s'est accrue. Les ONG ont renforcé par ailleurs leur influence. À noter néanmoins que dans plusieurs domaines, il ne peut pas intervenir, comme la politique extérieure et les questions fiscales sur lesquelles il est simplement consulté.
Angélique, on redit d'un mot les principales familles politiques qui sont représentées au Parlement ?
Oui, il y en a 8 dans l'actuelle mandature, mais ça va évidemment évoluer dans le prochain Parlement. Les partis politiques ici nationaux se regroupent, rappelons-le, non pas par nationalité, mais en famille politique, en fonction de leurs affinités et de leur ambition pour peser. Alors il y a le PPE qui regroupe la droite et le centre-droit, le groupe des sociaux-démocrates PS et travaillistes, les libéraux dans lequel siège par exemple le Modem et avec qui les députés de la République En Marche voudront constituer un nouveau groupe centriste, c'est leur ambition. Il y a également les Verts, la gauche radicale, et puis trois groupes eurosceptiques, ECR, dans lequel siègent beaucoup de Britanniques, qui sera sans doute amené à disparaître après le Brexit. Deux groupes nationalistes également, dont le groupe Europe des Nations et des Libertés, où siègent le Rassemblement National français et la Ligue italienne. Mais pour ces trois derniers groupes politiques, on s'attend évidemment à une reconfiguration en fonction du scrutin d'aujourd'hui et des négociations qui débuteront dès demain matin.
Merci à vous, Angélique Boin, en direct de Bruxelles. Une première indication pour la France, selon le ministère de l'Intérieur. Le taux de participation était de 19,26% à midi. Il était de 15,70% en 2014. Et puis à partir de 20h ce soir, France Culture vous propose une soirée spéciale élections européennes aux subsistances à Lyon, où se tiennent les assises internationales du roman. Olivia Gesbert parlera d'Europe avec ses invités. Une émission rythmée depuis Paris par l'analyse des résultats et les commentaires politiques avec Benoît Bouscarel et la rédaction de France Culture. Rendez-vous entre 20h et 22h15. Le leader historique de la rébellion kurde, Abdullah Öcalan, appelle les milliers de prisonniers des geôles turcs qui protestent contre ces conditions de détention à cesser leur grève de la faim. Abdullah Öcalan, dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation considérée comme terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, n'avait pas été autorisé à échanger avec son avocate ces 8 dernières années. Nevroz Yüzel a pu lui rendre visite à 2 reprises ce mois-ci. En visite à Bagdad, le chef de la diplomatie iranienne propose un pacte de non-agression entre l'Iran et ses voisins du Golfe. En pleine escalade verbale avec les États-Unis qui ont étoffé leur dispositif militaire dans la zone, Mohammad Jawad Zarif met en garde alliés et voisins de l'Iran contre, je cite, « les dangers de la guerre ». Fin de citation. L'opposition nicaraguayenne maintient ce dimanche une marche interdite hier par le régime, une marche destinée à réclamer la libération d'opposants conformément aux accords signés en mars dernier avec le gouvernement du président Daniel Ortega. Hier, à Dakar, place de l'Obélisque, une tribune contre les agressions et les violences faites aux femmes au Sénégal. Un rassemblement, 8 jours après le meurtre précédé d'une tentative de viol de Binta Camara. C'est un reportage de William Delesseux.
Sur le visage d'Aïcha Dramé, un maquillage fait de faux sang et de cicatrices.
Nous avons le visage ensanglanté, justement pour témoigner de la violence qui sévit. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, hier, c'était Binta Camara. Avant, c'était Marietou Doumbouya, la petite de 8 ans qui a été violée et tuée. Demain, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas attendre que ça nous arrive ou que ça arrive à un proche pour réagir. Donc, il faut bouger.
À la tribune se succèdent ceux qui ont connu la jeune Binta Camara, devenue le symbole des féminicides au Sénégal. Mais aussi des personnalités et des députés. Derrière, un sit-in, des femmes, des hommes comme le jeune Mohamed Keïta pour qui il fallait être là.
Donner l'exemple avant tout. C'est rare de voir des hommes assumer, de dire que nous sommes féministes. Et nous le disons haut et fort, nous sommes féministes. Et aussi, il est important aussi de dire que l'égalité hommes et femmes est possible. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, au niveau des politiques, pour les faire comprendre ça.
Au Sénégal, le viol est considéré comme un simple délit, passible de 10 ans d'emprisonnement au maximum. Oumine Dour, une des organisatrices du rassemblement.
C'est pour ça que le premier jalon que nous posons est de nous baser et de nous appuyer sur les femmes parlementaires pour que ce viol soit criminalisé. On ne crie plus ras-le-bol, on dit ras-le-viol.
Finalement, un document a été remis aux parlementaires dans le but de modifier le code pénal.
Le Sénégal, plus précisément la jeunesse de Dakar, a brillé hier à Cannes avec le Grand Prix du festival remis à la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop pour son premier long-métrage Atlantique. Le symbole d'un palmarès très politique cette année, c'est Alejandro González Iñárritu, le président du jury, qui le dit, la plupart des films qui ont reçu des prix, je cite, ont à voir avec les aspects politiques et sociaux du monde. Fin de citation. Bonjour Thomas Larabi.
Bonjour Mathieu.
Thomas, un palmarès qui, effectivement, met en lumière le sort des migrants, les violences policières ou encore les inégalités sociales.
Oui, avec en tête la Palme d'Or, le film Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho, l'histoire d'une famille pauvre qui survit dans un sombre sous-sol plein de cafards et qui finit par s'imposer au sein d'une famille bourgeoise. Mais il n'y a pas que la Palme d'Or dans la vie, Mathieu. Et derrière viennent plusieurs films français. En premier lieu, Portrait d'une jeune fille en feu, de la jeune réalisatrice Céline Sciamma. Le film qui traite de la condition féminine au XVIIIe siècle a reçu le prix du meilleur scénario. Et pour la cinéaste, l'atteinte politique de cette édition ne tient pas seulement au sujet traité par les films récompensés.
Politique aussi dans la typologie des films, hein, pas juste dans ce dont ils parlent, mais aussi la façon par qui ils sont fabriqués, à quel prix, comment. C'est des films d'indépendants, c'est une jeune génération de producteurs, en tout cas je parle pour la France. Et je crois que l'année est assez remarquable de ce point de vue-là et que le palmarès est plein de primo-accédants, plein de jeunesse et que ça fait vraiment plaisir de faire partie d'un corpus comme ça, quoi.
Dans ce corpus, il y a Atlantique, premier long métrage de la franco-sénégalaise Mati Diop. Donc, bombardé Grand Prix, son film raconte la traversée en mer d'un jeune migrant dakarois, un thème qui s'est imposé de lui-même à la réalisatrice.
Je me suis pas dit, tiens, je vais faire un film sur l'immigration, tiens, je vais faire un film sur les migrants, c'est l'inverse. Moi, je retournais à Dakar pour faire des films, et eux fuyaient cet endroit. Et je pense que le film vient aussi beaucoup de cette collision.
Et pour Mati Diop, c'est clair, cette édition 2019 marque une vraie rupture sur la croisette.
Quand j'ai appris que le film allait en compétition, j'ai appris dans le même temps que le film de Ladjli, que le film de Céline Sciamma, de Justine Triet par exemple, il y a là aussi. Et déjà, je me suis sentie tout de suite moins seule parce que ça aurait été compliqué d'être toute seule parmi tous ces grands cinéastes reconnus, principalement masculins. Là, j'ai eu l'impression de faire partie de quelque chose de nouveau. Voilà, on l'a tous senti.
Ladjli l'a senti, lui, récompensé par le grand prix du jury pour son film Les Misérables sur les violences policières dans les banlieues. Il espère que sa récompense et son parcours va servir de modèle.
Si ça peut donner de l'espoir à la jeunesse, aux gens de quartier, mais pas que, à toute la France, voilà, l'exemple est là. Moi, je suis vraiment parti de rien, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait d'école de cinéma. Et aujourd'hui, je me retrouve là en compétition officielle à remporter un prix, c'est juste énorme. Nous, ça fait 20 ans en banlieue qu'on est gilets jaunes, ça fait 20 ans qu'on revendique des droits, ça fait 20 ans qu'on subit les violences policières, ça fait 20 ans qu'on se prend les coups de flashball dans la gueule. Certes, on n'a pas été sur les Champs-Élysées manifester les gens de quartier, mais on soutient ce combat parce que c'est le même combat.
Et à la sortie de la cérémonie, le réalisateur a invité Emmanuel Macron à visionner son film. Un appel entendu par l'Élysée qui va organiser une projection dans les prochains jours.
Merci à vous Thomas Larabi. Le documentaire Pour Sama de la Syrienne Wahab Al-Kateab sur le conflit syrien repart lui avec l'œil d'or du festival. Et puis les frères Dardenne repartent avec le prix de la mise en scène pour leur film sur la radicalisation d'un adolescent, sobrement intitulé Le jeune Ahmed. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et La face cachée du globe présentée ce dimanche par Nadine Epstein. Bonjour.
Bonjour. 30 000 enfants originaires de 60 pays sont en danger en Syrie et en Irak. Âgés de moins de 12 ans pour la plupart, ils ont fui les zones où ils sont nés après l'invasion de Daesh. D'autres garçons, principalement, ont été enrôlés volontairement ou sous contrainte par des groupes armés. L'UNICEF demande publiquement aux États de respecter la convention relative aux droits des enfants qui les oblige à protéger tout mineur. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance estime que 20 000 jeunes viendraient d'Irak où se trouveraient aussi 1 200 enfants de combattants étrangers. À la frontière entre le Mexique et les États-Unis, au moins 500 000 personnes ont été arrêtées ces 6 derniers mois, venues principalement du Honduras, du Guatemala et du Salvador, pays d'Amérique centrale frappés par la violence et la pauvreté. Une partie de ces clandestins qui demandent l'asile va être installée dans des tentes montées par l'armée américaine. Au cours de cette annonce, le Pentagone a précisé que les militaires n'assureraient pas le fonctionnement des installations. La surveillance reviendra à la sécurité intérieure. Le gouvernement israélien n'est toujours pas formé après un mois de négociations. Benjamin Netanyahou a demandé une rallonge de temps pour finaliser sa coalition. C'est donc maintenant la phase finale des tractations entre les partis. Chaque formation essaie de tirer les meilleurs avantages législatifs, budgétaires et personnels de son alliance avec le Likoud du Premier ministre. Ofer Bronstein, président du Forum pour la paix, était cette semaine à Tel Aviv.
Vous savez, étonné que le système électoral israélien oblige des coalitions, et c'est parfois des coalitions contre nature, chacun essaie de tirer le maximum de son côté. Une des choses qu'il a faites déjà avant-hier, et qui a été votée au gouvernement, c'est d'élargir le gouvernement. La loi israélienne, jusqu'à maintenant, obligeait qu'un gouvernement soit composé que de 18 ministres et de 4 vice-ministres. Et le gouvernement de transition, dont Netanyahou est à la tête, a changé ses paramètres en permettant au prochain gouvernement d'avoir 26 ministres, et au moins 8 vice-premiers ministres.
Ceci pour élargir sa coalition ?
Ceci pour satisfaire les demandes des partis qui théoriquement vont faire partie de sa coalition. La deuxième chose, c'est qu'il y a un schisme entre les partis religieux et le parti de M. Lieberman, qui est un parti laïque russophone. Eux, ils veulent faire passer une loi qui oblige tous les religieux à aller à l'armée, ce que les religieux n'acceptent pas. Ils veulent faire passer une loi qui permet des mariages laïcs, ce que les religieux ne veulent pas. Il veut que Netanyahou, s'il est nommé encore une fois comme ministre de la Défense, lui donne la main libre pour faire ce qu'il pense à Gaza, puisqu'il a démissionné. N'oublions pas que ces élections ont été anticipées parce que M. Lieberman, ministre de la Défense, a démissionné parce qu'il était en désaccord sur la politique de M. Netanyahou par rapport à Gaza. Le paradoxe, c'est qu'il y a eu des élections très mouvementées et on se retrouve à la case zéro. Et donc, M. Lieberman, ce parti laïque russophone, a des exigences que les partis religieux n'acceptent pas.
Dès lors, est-ce que la majorité au Parlement est assez solide ?
C'est un gouvernement qui sera composé de 65 parlementaires sur les 120. Si le parti de Lieberman, par exemple, qui a 5 parlementaires, décide, comme il l'a fait précédemment, de le quitter, ce gouvernement tombera. Donc ça dépendra du plan de paix que les Américains doivent mettre sur le tapis prochainement. Est-ce que la coalition, qui est composée aussi de partis d'extrême droite, acceptera ce que les Américains leur proposent? On va voir comment cette coalition va agir par rapport, n'oublions pas qu'un des problèmes majeurs aujourd'hui, ce sont les 3 mises en accusation du Premier ministre Netanyahou. Une des raisons pour laquelle Netanyahou est en train de pousser jusqu'à la dernière minute, c'est justement pour faire accepter aux membres de sa coalition un changement de loi qui lui permettra l'immunité tant qu'il est Premier ministre et donc d'échapper à ce stade à la justice israélienne.
La culture en danger au Brésil, 9 mois après l'effondrement du musée national de Rio dévoré par les flammes, la reconstruction de l'institution de référence est au point mort. Son directeur, Alexander Kellner, arrive en France. Il recherche des fonds d'urgence pour restaurer les pièces récupérées dans les gravats et pour rebâtir l'ancien palais impérial du 19e siècle qui abritait le plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine. Le serpent tue davantage que toute autre maladie tropicale enregistrée par l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, dans le monde, les reptiles mordent près de 5,5 millions d'individus. La moitié est intoxiquée par la morsure, 100 000 personnes meurent, 400 000 autres sont défigurées ou infirmes. L'OMS a décidé d'agir pour réduire de 50% le nombre de victimes et de cas d'invalidité d'ici 2030. Un objectif salué par Médecins sans frontières qui constate l'impact dévastateur des morsures de serpents sur les communautés rurales dans les pays où l'ONG intervient.
Quelques mots de la météo de l'après-midi pour refermer cette édition. Ciel couvert sur les Pyrénées et le Massif central avec des pluies éparses. Soleil sur le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône. Température maximale comprise entre 17 et 24 degrés. Édition préparée avec Benjamin Ducy. Et à la technique, c'était Emmanuel Morse-Duncan.